Jesse Matthew Jr., le tueur de la rentrée scolaire. Narration, Florent Houllier. Le 13 septembre 2014, à Charlottesville, dans l'État de Virginie, aux États-Unis, Anna Elizabeth Graham, une jeune fille de 18 ans, disparaît pour toujours. Sa toute dernière apparition a été constatée dans un centre commercial de la ville, plus tôt dans la matinée. 10 jours plus tard, la police diffuse un avis de recherche, mais Anna demeure introuvable. Ce n'est que 5 semaines plus tard que l'on découvre les restes de son corps dans une propriété abandonnée, dans le comté voisin d'Albermale. Cette macabre découverte permet de faire le rapprochement avec un autre meurtre commis 5 ans plus tôt, celui de l'étudiante Morgan Harrington, âgée de 20 ans. Son corps avait été découvert dans les mêmes conditions, 3 mois après sa disparition en 2009. Anna Elizabeth Graham est née le 25 février 1996 dans le Berkshire, en Angleterre. Ses parents sont John et Sue Graham. Elle a également un frère plus âgé, prénommé James. À l'âge de 5 ans, elle suit ses parents dans leur déménagement aux États-Unis, dans l'État de Virginie, et elle s'adapte rapidement à sa nouvelle vie. Elle réside à Fairfax, dans le quartier de Stratford, où le niveau de vie est élevé. Anna est entourée de nombreux amis. On lui reconnaît un talent particulier pour le saxophone alto, mais aussi pour le ski. Bonne élève et très impliquée dans sa vie étudiante à l'Université de Virginie, sa disparition aussi soudaine qu'inexplicable prend tout le monde de court. Anna aime faire la fête, mais selon ses proches, elle n'est pas ce genre de fille à se mettre dans des situations dangereuses. Le samedi 13 septembre 2014, à minuit 44, un ami de l'étudiante reçoit un message d'Anna lui disant qu'elle va à une fête. Il n'y prête pas plus attention que cela. À minuit 56, précisément, Anna envoie un autre SMS à l'une de ses amies. Elle dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle se sent perdue. Son entourage suppose qu'elle a un peu trop bu et qu'elle va certainement rentrer chez elle. Dans son tout dernier message, elle déclare « J'ai été bloquée en bas ». L'énigmatique SMS va devenir très inquiétant lorsque le dimanche 14 septembre, les amis d'Anna n'ont toujours pas de nouvelles de l'étudiante. La journée du samedi, ils pensaient que si Anna ne répondait pas à leur message, c'est parce que tout simplement, elle avait beaucoup trop bu le vendredi soir et qu'elle avait passé sa journée à dormir. Rapidement, les parents de l'étudiante sont prévenus. Eux aussi sont très inquiets. Ils se rendent à la police de Charlottesville pour signaler sa disparition. Ce n'est pas dans les habitudes de la jeune fille de ne pas donner de nouvelles pendant une si longue période. Les agents fédéraux, qui ont l'habitude des soirées trop alcoolisées qui tournent mal, se mettent immédiatement en quête d'informations. D'autant plus que ça ne serait pas le premier cas de disparition dans la région ces dernières années. Des proches, des amis et même des connaissances plus éloignées ont manifesté leur inquiétude et leur désir de la retrouver. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Université de Virginie lors d'une veillée aux chandelles pour exprimer leur soutien à Anna et à sa famille. La mobilisation des forces de l'ordre va permettre d'appréhender une première personne dès le samedi suivant. Durant toute la semaine du 15 septembre, les enquêteurs interrogent l'entourage de l'étudiante. Une équipe se rend sur le campus pour en apprendre un peu plus sur les habitudes d'Anna, tandis qu'une autre collecte toutes les bandes de vidéosurveillance de la ville. Les vidéos et les différents témoignages permettent d'en connaître un peu plus sur les heures qui ont suivi sa disparition. Anna a d'abord rendez-vous vers 21h30 avec des amis au restaurant Fig à Charlottesville. L'étudiante réside dans un complexe d'appartements, le Grand Mark at the Corner. Anna est filmée par les caméras de télésurveillance à cette même heure. Le restaurant n'est qu'à 6 minutes à pied de sa résidence. Le dîner se termine à 22h48, comme l'atteste un ticket de caisse. Un peu plus tard dans la soirée, Anna est vue à une soirée étudiante dans un appartement du Camden Plaza, sur la 14e rue. Les enquêteurs ne connaissent pas l'heure exacte à laquelle elle a quitté la fête, mais un ami a témoigné avoir voulu la raccompagner chez elle, car elle ne se sentait pas bien. En réalité, Anna n'y est pas restée très longtemps. Elle n'a pas accepté la proposition d'être raccompagnée par son camarade, affirmant qu'elle pouvait rentrer chez elle toute seule. Après tout, elle n'habite qu'à 3 minutes à pied de la résidence. Mais les caméras de surveillance prouvent qu'elle ne se rend pas chez elle, mais dans une direction opposée, à plus de 2 kilomètres de là. Elle passe devant des commerces du centre-ville de Charlottesville. Anna a la démarche légère, même si elle titube un peu. Arrivée dans la rue du Môle, elle croise la route d'un homme. Ce dernier s'approche d'elle et l'enlace. Tous deux prennent la direction du restaurant Tempo. Ils ne sont pas restés longtemps. Anna était déjà bien ivre, au point que l'homme était obligé de la soutenir. Grâce à des témoignages, les enquêteurs obtiennent le nom de cet homme avec lequel elle avait visiblement rendez-vous. À moins qu'elle ne se soit présentée au restaurant sous la contrainte, puisqu'Anna n'était plus du tout en possession de ses moyens. Cet homme s'appelle Jesse Matthew Jr. Plus tôt dans la soirée, il avait été aperçu dans d'autres établissements de la ville. Il avait passé sa soirée à boire et à se montrer insistant avec certaines femmes. Elles ne se sont pas senties très à l'aise en sa présence. Une jeune femme a d'ailleurs quitté précipitamment les lieux où elle était, après avoir pensé que Jesse allait l'agresser sexuellement. Pour l'heure, tout ce que les policiers savent sur Jesse Matthew, c'est qu'il est chauffeur de taxi à temps partiel. Jesse pourrait s'avérer très dangereux. Un dernier témoin dit avoir entendu Anna dire qu'elle ne monterait pas avec lui dans sa voiture. Ce véhicule a également été identifié par la police, ce qui a facilité les recherches du suspect. Il s'agit d'une Chrysler Sebring Orange de 1998. Le vendredi 19 septembre 2014, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour le domicile personnel de Jesse Matthew. Avant même que celui-ci ait fait l'objet d'une mise en examen officielle, il est déjà surnommé par la presse locale le « Back to School Killer », le tueur de la rentrée des classes. Sur place, les policiers découvrent un téléphone portable sans carte SIM, probablement volé. Sur un short, ils découvrent du sperme. Plus tard, le résultat des prélèvements révélera la présence de l'ADN de Jesse Matthew et de Anna Graham. De l'ADN de l'étudiante est également retrouvé sur la portière du côté passager du véhicule de Matthew. Au moment des découvertes, les enquêteurs ne connaissent pas encore les résultats des prélèvements. Les policiers repartent sans appréhender Matthew, mais reviennent le lendemain pour une deuxième perquisition. Ils emportent tout un tas d'objets, comme des oreillers, des vêtements, une brosse à dents, des échantillons de cheveux, un portefeuille, un mégot de cigarette, mais aussi des fibres de tissu récoltées sur différents objets appartenant au chauffeur de taxi. Des chiens policiers spécialisés dans la détection de traces de sang en repèrent l'odeur au niveau de l'entrée arrière de l'appartement de Matthew. Le jour même, le suspect se rend lui-même au commissariat de Charlottesville. Il est très remonté et demande à rencontrer les enquêteurs. Quand les policiers lui demandent de leur parler de sa relation avec Anna, il refuse de répondre aux questions et prend immédiatement la fuite. Désormais, la police doit se lancer à la poursuite d'un fugitif. Jesse Matthew a quitté la ville à bord de la voiture de sa sœur, une Nissan bleue. Un avis de recherche est lancé, dans lequel est décrit un homme de couleur noire âgé d'une trentaine d'années. Il porte comme signe distinctif des dreadlocks, une barbichette et une forte musculature. Il mesure 1m80 pour 120 kg. Jesse disparaît pendant près d'une semaine. Pendant que les enquêteurs recherchent des indices supplémentaires et cherchent à appréhender le suspect, la famille d'Anna et ses proches sont toujours mobilisés pour retrouver l'étudiante. Plus d'un millier de volontaires se joignent aux battus. Le 24 septembre, Jesse est repéré sur une plage du Texas par le shérif du comté de Galveston. Il avait installé un petit campement à côté de la Nissan bleue de sa sœur. Le shérif avait été appelé un peu plus tôt dans la journée par un passant qui avait reconnu la description de l'homme et avait appelé le 911, les services d'urgence de la police. Après son arrestation, Jesse Matthew est extradé du Texas vers l'État de Virginie, à Charlottesville. Le même jour, une annonce est diffusée partout dans le pays pour obtenir toute information permettant de retrouver Anna Graham avec une récompense à la clé de 100 000 dollars. Pendant ces interrogatoires, les enquêteurs découvrent en Matthew un profil très inquiétant. En 2002, alors qu'il était étudiant à l'université de Liberty en Virginie, une étudiante l'avait accusé de viol. Après quoi, Jesse s'est désinscrit de l'université pour intégrer celle de Christopher Newport l'année suivante. Mais une fois de plus, une autre étudiante porte plainte pour agression sexuelle. Suite à son arrestation, l'ADN de Jesse Matthew est entré dans les bases de données de prélèvement. La correspondance de son ADN permet de mettre à jour une autre affaire de viol avec violence sur une jeune femme dans un magasin de Fairfax County. Dans son dépôt de plainte, cette victime avait précisé que Jessie menaçait de la tuer si elle ne se pliait pas à sa volonté. Le 18 octobre, les enquêteurs font une macabre découverte sur une propriété à l'abandon située sur Old Lynchburg Road, dans le comté d'Albemarle. C'est celle d'un corps en état de décomposition avancée. Très vite, le rapprochement est fait avec Anna Graham. Bien que l'identification soit difficile, ils savent que le cadavre est de sexe féminin. Sur ce cadavre sont trouvés un haut et un jean qui ressemblent à ce qu'Anna portait le soir de sa disparition. Le haut était à l'envers et le pantalon avait une jambe retournée. Une montre a également été retrouvée. En revanche, les sous-vêtements, les chaussures et le téléphone portable sont manquants.